z Delta Sense Step In.
And all the lies I thought that you couldn't take.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 14 avril 2012. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Jano Dead. Et à 17h, FMR, salle d'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le match de super-héros que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Il y a aussi quand vous regardez un nanar des années 60-70, vous savez ce que veut dire l'expression « Oh, viens admirer ma collection d'estampes japonaises » ou ce genre de choses.
Radio FMR présente... Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
B1, D1, F1, bonjour et bienvenue, vous êtes sur Radio FMR, c'est sur 89.1 MHz, émission numéro 313 du 14 avril 2012, mais hier on était le 13.
Touché.
Ah, quel casse, je sais pas.
Le F1.
D'accord, merci. Vous vous demandez ce que l'on est en train de faire là, vous comprendrez en cours d'émission. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il y a d'autre à annoncer? Il y a plein d'annonces dédicaces, plein de choses, mais avant même de faire cela...
A6, B7, C8.
Dans l'eau... il faut bien évidemment que du sport s'assoie, et je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous le savez, il y a une émission que l'on a rajoutée dans notre podcast. Oui, je sais, j'ai une semaine de retard. Il y a une émission que j'ai rajoutée dans notre podcast qui intervient à peu près une fois par mois, qui est en direct dans ce studio de Radio FMR le vendredi matin, dernier vendredi de chaque mois à 8h du matin. Et oui, il s'agit d'un petit déjeuner clandestin. Il se trouve que l'on est en plein pilote du sport. Tu peux prendre le sachet là qui est devant toi?
Oui.
S'il te plaît. Et on est en fait, on a commencé à préparer le pilote d'un nouveau type d'émission qu'on est en train de préparer. Tu peux mettre le micro jaune que l'on t'entend en train de déplier ce truc. Et donc, il s'agissait en fait de travailler sur le média son. Ça, j'en ai parlé dans les causeries de Capucine et Niarc sur en fait ce qu'est le média radio réellement, c'est-à-dire que c'est un média de l'imaginaire, c'est un média où on découvre en fait, on essaie de vous faire découvrir ce que l'on peut faire passer par vos autres sens. C'est un peu particulier, vous allez me dire. Eh ben, il n'y a pas que ça. Ça a été une causerie qui a duré une heure, qui était plutôt intéressante de ce côté-là. F2, F3, F4. Et sur ce plan-là, eh ben, enflammé avec dans l'émission de Eugène et avec la complicité de Ludovic Rouif. A Roif, fait une émission.
C'est pas Roif.
Roif, pardon. Ah, a fait une émission culinaire où en fait il cuisine à l'antenne. Et là, je demande à du sport déjà de décrire visuellement ce qui est en train de se passer. Vas-y.
Alors, est-ce que c'est bon déjà?
Oui, je viens de goûter le riz, c'est pas mal. Alors, il y a du riz.
Et avec, il faut sentir, il faut décrire tout ça.
Alors je précise avant, c'est vrai que dans les films ou dans général, tu as le bruit du couvert en métal sur l'assiette. Mais alors là, c'est comme tout en plastique, c'est un bento. Bon, on n'a pas trop la dimension sonore.
On n'a pas la banque de données et la banque de son pour refaire les bruitages.
Attends, je te le fais là.
Vous excusez quoi. Mais alors, par contre, le riz est cuit nature et juste à côté, bien il y a du poulet.
Qu'est-ce que tu as senti quand tu as ouvert le... Alors, toi qui as de l'odeur.
Allez, pense à Petit Chef là. pense
allez,
à
allez, on a eu la finale de Top Chef, donc allez, vas-y,
ouais, pas mal. Hein,
ouais, bah non, on a enregistré un pilote juste avant de venir. Donc,
non, mais je suis très mauvais pour décrire les goûts, les saveurs.
Mais c'est le but. C'est le but.
Pense au festin chinois, piton rocheux, jet de flamme, et c'est pensé comme ça, voilà.
Non, moi je suis pas du tout dedans. Quoi.
C'est avec la séance d'acupuncture où ils écoutent la radio.
Non, disons que.
Attends, il faut que je continue les bruits de fourchette.
Non, mais il faudrait que je goûte vraiment, quoi.
Bah vas-y.
Mais attends, il est en train de tuer son poulet de tout à l'heure, il a pas mangé, attends. Vas-y.
Allez, on le laisse goûter, on va annoncer les séances de dédicaces qui ont lieu alors avec dès cet après-midi. C'est à la librairie Les Petits Ruisseaux, c'est dans le quartier, pour ceux qui sont à Toulouse, c'est dans le quartier République. Figurez-vous que Djilal Defali dédicacera Leçon Coloniale. Leçon Coloniale est une bande dessinée scénarisée par Azouz Begag. Azouz Begag qui était le secrétaire d'État
le mouton dans la salle
à l'intégration.
De bain. C'était le mouton dans la baignoire. Azouz Begag.
Oui, c'est ce qu'il a dit après. Ce qu'on lui disait de lui au sein du gouvernement, puisqu'il a fait partie du premier gouvernement Fillon, en tant que secrétaire d'État à l'intégration.
C'était par rapport à une phrase qu'avait sorti soit Fillon, soit Sarkozy, je sais plus, où il disait je me reconnais pas dans ces Français qui égorgent des moutons dans les salles de bain. Voilà.
Voilà, donc c'est une bande dessinée qui, à mon avis, doit être intéressante parce qu'il l'écrit bien quand même, hein, l'animal, entre guillemets. Donc, sur bien évidemment le rapport très difficile entre le colonialisme et l'immigration. Donc, c'est un débat qui est vraiment d'actualité, qui est revenu, je vais dire, d'actualité à cause de la politique actuelle, et je ne vais pas en rajouter plus. En tout cas, je vous invite à aller découvrir, à aimer ou ne pas aimer cet album. Vendredi prochain à la librairie Album, il y a un mini festival de dédicaces de romanciers de science-fiction. À savoir, c'est un éditeur en ligne qui s'appelle Cocyclix, cocyclix.org. C'est un projet d'édition en Creative Commons et bêta lecture. Le principe est très simple, c'est vous avez des écrivains qui écrivent au fur et à mesure les chapitres, et vous pouvez dire ce que vous en pensez, donc ils vont corriger tout ça, et ils essaient de trouver des éditeurs derrière. Bragelonne a déjà édité plusieurs romans.
Bragelonne,
pardon, excusez-moi. Donc ils sont en dédicace à la librairie Album, c'est le vendredi 20 avril. Le vendredi 21, Tony Sandoval sera à la librairie Album, auteur de Doomboy et des échos invisibles, auteur qui a été récompensé par le prix du Conseil Général des Jeunes de la Charente, enfin le prix coup de cœur pour, si je me souviens bien, c'était pour Doomboy. C'est aux éditions Paquet. C'est un auteur qui est vraiment sympathique, c'est un Mexicain qui est chaleureux de cœur, qui a un graphisme fabuleux, qu'on a rencontré plus d'une fois et qui est vraiment adorable. Donc c'est samedi prochain à la librairie Album. Le 22, n'oubliez pas de voter. Et le 28 et 29 avril, c'est une spéciale Seigneur des Anneaux, entre guillemets, puisque entre les deux tours, et elle est pas de moi cette vanne, aura lieu le TGS au Hanami.
Oui, je sais, la blague entre les deux tours, oui, d'accord.
Voilà. Mais elle est pas de moi, merci.
Je rappelle qu'en 2001, on avait fait des blagues aussi sur les deux tours. Quoi, ils sortent déjà le film adapté?
Bon, voilà. Du sport.
Oui. Eh bien, c'est tout simplement excellent.
Mais non, mais en tant que critique, tu peux pas commencer par ça. Tu es obligé de décrire, d'amener le plat en racontant son histoire, en racontant le background, en racontant l'impression des yeux, l'impression du scénario, l'impression du dessin.
B5, C6 et D7.
D'accord. Duce, tu peux y aller. Toucher, D6.
Ah, merde.
Youpi. Lequel?
D6.
C'est pas celui que j'avais demandé, mais merci pour l'info. J'avais dit D7. C6 et B5, j'avais dit.
Ah, C6, pardon, oui. Ah, oh, putain, je l'ai noté à côté. Donc, Dus, continue, s'il te plaît.
Alors, je sais pas, je vous le fais à un dîner presque parfait.
Allez,
ou...
Cyril Lignac, vas-y.
E1, G1, FH1.
Pardon ?
E1, G1, H1.
Alors moi j'aime bien le riz déjà servi comme ça à côté, ça permet de mélanger au fur et à mesure et tout, on n'est pas tributaire de l'accompagnement. Le poulet est parfaitement cuit, les aromates, il y a des petits oignons, il y a des petites graines diverses qui viennent parfumer comme ça, qui viennent donner un petit soupçon de piquant mais pas trop, juste ce qu'il faut. Hein, avec à la limite de l'aigre doux, on va dire, quoi, mais quand même avec un petit peu de piquant.
C'est bien, c'est moi ça me plaît bien quoi, de toute façon quoi.
J'ai un touché. Par contre, si tu le fais à la Cyril Lignac, lui dit tout le temps dans ses phrases, j'ai pris beaucoup de plaisir. Faut le dire ça.
Ouais, ouais, ouais. j'ai pas fini.
E1 ou G1 touché?
G1.
Merci.
T'as pas tapé en E1, t'as fait juste F, G, H. Non?
Non, F, j'avais déjà touché.
Ah, t'as fait E et G? E, ouais. G, H. Bon, ben, couler E et G.
Ouais, contre-torpilleur. Vous, pourquoi ce contre-torpilleur coulé? Eh ben, ça, vous le saurez tout à l'heure pendant la partie cinéma. On va entamer par une chronique BD un petit peu particulière. Non, pas particulière, puisque c'est la revue de presse, mais c'est un numéro spécial de Fluide Glacial. Vous savez que Fluide, en ce moment, il y a un peu de l'eau dans le gaz, entre guillemets. Mais néanmoins, pour remotiver les troupes, ils ont fait un numéro hors série, complètement hors série, en dehors du hors série, spécial Monty Python, 5,90€ en kiosque.
Ah ouais, mais c'est une bête, hein.
Couverture de...
Tu parles du poulet, là?
Non, je parle du Fluide Glacial, là.
On y est arrivé.
Qui est nettement plus épais que d'habitude.
Nettement plus épais, couverture de Coyote, Chosy qui a fait les caricatures des 6 Monty Python. J'avais dit qu'on allait essayer d'avoir Graham au téléphone et j'arrive pas à le joindre.
Graham, c'est son prénom. Hein.
Ouais, Graham Chapman, j'essaie de le joindre depuis tout à l'heure et je n'y arrive absolument pas. Alors, par contre, juste une chose, c'est si vous ne connaissez pas les Monty Python, vous allez pas franchement apprendre grand chose parce que c'est bourré de vannes. Si vous êtes hyper fan des Monty Python, vous allez adorer.
Et ah,
si
mais il y a connaissez... d'accord, il y a des références dans des films qui ne sont pas signés Monty Python.
Loin de là.
Genre, par exemple, John Cleese dans Passons dans mes Vanda, c'est cette caricature qu'a fait Chosy.
Voilà, donc il y a vraiment de ce côté-là, des histoires originales des Monty Python qui sont traduites, qui n'avaient pas été éditées en France d'ailleurs, il me semble, pour certaines d'entre elles. Il y a leur biographie, mais elle est complètement fantasmée. N'essayez même pas de faire ce qu'ils ont fait, c'est faux. Voilà, il y a bien évidemment aussi bien l'influence de leur série télévisée que l'influence en fait des films. Et on a à l'intérieur Gottlieb qui raconte sa rencontre avec les Monty Python, à la fois avec l'humour des Monty Python, avec le choc avec le film, hein, les films des Monty Python, et ensuite, puisqu'il avait été commissionné pour faire la première couverture, la première affiche, celle du film qui allait devenir la première folie des Monty Python. C'est finalement Alexis qui a fait cette affiche-là, d'ailleurs. C'est vraiment un bouquin qui se laisse lire, qui est vraiment plaisant de ce côté-là, justement, pour... la lecture, c'est vraiment très agréable. Du sport, où en es-tu?
Ah ben là, ça se précise, hein, de toute façon, quoi.
C'est notre envoyé spécial face au bateau.
Ça se précise. Bon, à noter que je vais revenir sur ce que j'ai dit à propos de l'assaisonnement, et c'est vrai que c'est quand même assez relevé, hein. Il faut le souligner, quoi. Mais néanmoins, ça reste tout à fait appréciable. Et,
voilà, du sport vient donc de chroniquer le poulet yassai de
B6, D6, E6
de enflammé.net. B6, D6.
Ah, et ça se fait avec des olives
D6
normalement.
D6 touché, E6. Et ben, contre-torpilleur coulé. On va finir par y arriver. Cette émission n'a ni queue ni tête et c'est vraiment un plaisir de la faire. Mais néanmoins, je vous promets une toute autre ambiance dès maintenant parce que j'arrive à la fin du CD. Donc il faut que j'enchaîne. Quand même, on est en direct intégral sur Radio FMR. C'est le grand avantage, c'est qu'on peut faire n'importe quoi et on peut vous décrire tout ce que l'on veut. Donc pour en revenir au Fluide Glacial, spécialement Monty Python, en kiosque dès maintenant, 5,90€. C'est un grand bonheur à lire. Plein d'illustrations. C'est surtout pour les nouvelles qui sont intéressantes et aussi le rapport caché, plus ou moins direct, parce qu'on dit que Fluide Glacial c'est une adaptation de Mad. Moi je pense plutôt que Fluide Glacial a directement ses origines dans les Monty Python et ça se sent, et c'est vraiment intéressant justement de ce côté là la lecture, l'humour anglais et je vais dire
en plus vous pouvez passer des heures à décrypter la couverture de Coyote parce qu'il y a même des références donc à la vie de Brian, au Sacré Graal avec l'espèce de lapin carnivore qui a sur un côté, alors évidemment il a foutu une moto par dessus parce que bon c'est Coyote, hein, forcément. forcément. Donc ouais non, il y a plein de références avec
la moto est de marque BBC, moi j'aime bien. Il y a plein de trucs.
Le ministère des démarches bizarres.
Démarches stupides.
Oui voilà, avec non, il y a plein de références, c'est voilà. Vraiment très bien.
On va entamer la sortie bande dessinée avec un bouquin de Kengo Hanazawa qui s'appelle I Am a Hero. Les deux premiers tomes sont sortis dans la collection Bikana chez Kana. Et c'est l'histoire d'Hideo. Hideo est un homme qui croit encore à sa jeunesse. Il a 35 ans, il vit seul dans un très petit appartement. Ben oui, on est à Tokyo. Il se lève tous les matins à 4h du matin. Et a des obsessions. C'est un dessinateur de manga, mais en fait juste un assistant, hein. C'est pas lui le dessinateur star. Sa vie est rythmée par les journées de travail de 11h à 23h, dimanche inclus, vu les délais de publication. Promiscuité avec ses collègues, hein, parce qu'ils ont tous moins de 0,8 mètres carrés pour travailler. Avec le dessinateur star qui ne loupe aucun JT, uniquement parce qu'il y a des présentatrices et elles sont jeunes et ils bavent devant. Bref, il est un peu obsédé par ça. Hideo est de plus hanté par des visions. Il voit partout un ami imaginaire. Voilà qui ne l'aide absolument pas à se concentrer. Heureusement, il a un loisir un petit peu se défouler. Il a le tir à la carabine qu'il pratique pratiquement pas. D'ailleurs, il manque de perdre sa licence tout simplement, de ne pas avoir pratiqué, et il le fait dans un club, forcément. Mais il a la carabine chez lui. Bon, voilà quoi. Et il a une petite amie, Teko. Alors Teko
est pas vrai.
Elle aussi est une dessinatrice de manga. Elle n'arrête pas d'échanger storyboards, ce qu'on appelle les Nemo, par fax avec son ex. Et elle n'arrête pas de dire « Tu devrais lire les Nemo de mon ex, c'est formidable, etc. » Ça contrarie un petit peu Hideo, pardon. Qui plus est, quand elle est complètement beurrée, elle insulte, lui rappelle sa situation d'assistant, qu'il est un raté. Eh oui, même l'amour est glauque. Alors quand on lit le premier tome, on se dit qu'on a un Bakuman, un manga qui raconte la vie quotidienne des mangakas, mais avec un auteur qui n'a pas réussi et 20 ans plus âgé. Encore à tenter à placer une idée d'une série dans une revue, les remarques appuyées sur son âge, 35 ans, pensez donc, et qui sera condamné à rester assistant. Et puis il y a le deuxième tome. Et là, l'histoire a complètement basculé, car ce matin-là, le monde est en proie avec une invasion zombie. Teko est contaminé, tente de mordre Hideo, lui fait passer sa tête vers la porte. Hideo ne sait plus où aller, à son travail, chez son éditeur. Et on se dit que le personnage principal a une chance formidable. Il est membre d'un club de tir, il suffit qu'il sorte de sa housse son fusil. Eh ben non, même pas, il le fait même pas. Cela devient une histoire ubuesque, où des morts vivants cannibales attaquent des gens normaux qui ne s'en rendent pratiquement pas compte. Bref, c'est n'importe quoi, dans la veine des films horrifiques, marrants, comme si Shaun of the Dead était adapté en manga. Kengo Hanazawa a fait une œuvre défouloir, complètement déjantée et hilarante, qui vaut mieux du coup s'accrocher pour suivre au-delà du deuxième tome. C'est un très bon choix. I Am a Hero, tome 1 et 2 de Kengo Hanazawa, c'est dans la collection Big Kana chez Kana, et je pense que vous allez vraiment surkiffer. A2, A4, B3.
Alors attends, que je prends mon crayon. A2, A4, B3. Tout dans l'eau.
Et oui, parce qu'il faut qu'on tienne le temps que du sport finisse son assiette pour la suite.
Oui.
Décris ce que tu commençais, la couleur du fond de l'assiette. Oui, t'as pas décrit les couleurs.
E8, oui. F7, G8. Poch, c'est quoi?
G8,
F7, E8. C'est quoi, c'est le bruit de la flotte ou le bruit du...
F7.
Ah, touché.
Alors, vas-y, décris comment c'était et tout.
Parfait.
D'accord.
Tu crois qu'on va tenir une émission d'une heure comme ça, mon cher ami? C'est un pilote qu'on tourne.
Bon, d'accord.
Alors, on parle de la cuisson du poulet, parle de l'assaisonnement, les assortiments de saveurs.
Bien, la cuisson bien, il n'y a pas de problème. Justement, ce que j'aime bien, c'est que bon,
c'est un peu sec le poulet d'habitude quand on le cuit.
Non, pas du tout. Hein. Là, c'était vraiment bien, quoi. Justement.
Et la présentation?
Et la présentation.
Bah, c'est un bento, donc. Allez, ram. Ces serviettes en papier choisies avec le plus grand soin.
Ah non, là, il y a une vraie serviette en plus, quoi.
Ah oui, la serviette à carreaux qui est un peu assortie à ton t-shirt d'ailleurs. Ah oui, aujourd'hui, tu es en micro vert, t-shirt vert et serviette verte. Pas mal.
Il n'y voyait aucun signe.
D'accord.
Politique.
Ouais, tu es gentil, tu évites de roter à l'antenne quand même parce que c'est pas génial après pour la prise de son. Bref, vous avez compris, du sport à aimer, donc ce poulet Yassai. Et je pense que donc il y aura une critique. Il y aura le texte de la cuisine et tout ça sur nos sites web et nos réseaux sociaux habituels. N'oubliez pas, magnifique. D'ailleurs, Google+, d'ailleurs, je sais pas comment on se démarre avec la nouvelle interface Facebook et Twitter.
Alors, en parlant de réseaux sociaux, avant de la chronique du sport sur le cinéma, j'appelle avant, puisqu'il y aura un quiz juste après la chronique du sport sur... sinon les gens vont se préparer sur Google.
Donc,
si rendez-vous. Si vous voulez participer au quiz, à peu près rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Vous nous appelez au 05 61 580 580. Vous nous appelez pour participer avec du sport Xavier au quiz que je vous ai concocté. Si vous ne voulez pas appeler, vous pouvez participer sur Twitter. Vous pouvez mettre avec le hashtag SWE pour supplément week-end.
Et on vous attend avec impatience parce que je pense qu'on va bien s'éclater de ce côté-là. On peut plus faire des recherches quand on est en dehors de Twitter.
Essayez de... Bon, de toute façon, ce sera un quiz assez facile. Donc, honte à vous si vous vous aidez de Google ou si vous préparez vos réponses avant. Voilà, donc on va peut-être enchaîner avec peut-être une interruption musicale avant d'enchaîner avec la chronique cinéma, puisque pour une fois n'est pas coutume, c'est du sport qui s'y colle aujourd'hui.
Non, même pas, on y va direct.
Ouais, ouais. Pas d'interruption, d'accord, bon, mais très bien. Du sport à le gosier fraîchement nourri, l'estomac plein.
La 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 B5 A6 B7 la la la
B5 A6 B7.
C'est un film qui sent le toucher coulé.
Plouf, plouf, plouf. Trois coups dans l'eau.
Ouais, missile nord-coréen à la
flotte.
Ouais,
Battleship.
Voilà, bon.
Un film de Peter Berg. Alors déjà, on se dit Peter Berg, bon, ça va, il est capable de faire des bons films.
Le
il
gars
est
qui
capable...
touche à tout.
Ouais, ouais, il est capable de faire des bonnes bouses. Et là, il n'y a pas de problème, ben, il a touché. Il a même bien coulé, on peut le dire.
E7, alors, G7,
le film,
F6.
Le film vient donc du jeu éponyme Battleship qui est sorti chez Hasbro. Hasbro qui est d'ailleurs coproducteur sur les écrans en deuxième position juste après Universal.
F6, boum.
Alors, ce film, quand
c'est
dire...
tout, et pas les autres.
Non. On peut se dire qu'il y a un casting qui vaut à peu près le coup quand même, avec la nouvelle coqueluche des films d'action, Taylor Kitsch qui est
attends, j'arrive pas à écouter les deux là. Alors attends, t'as dit quoi? A8
qui est tout
8,
à fait excellent dans le rôle de John Carter.
C'est ça.
Qu'on se disait que bon, il pourrait peut-être un petit peu mieux tenir la route dans un autre registre, à savoir le registre un petit peu plus contemporain du film de mi-science-fiction, on va dire, parce qu'il s'agit bien entendu
d'envahisseurs
qui vont coloniser la Terre et qui vont la vider de ses occupants. Eh oui, mais c'est sans compter sur la glorieuse marine américaine. Et en effet, et le film pratiquement du début, on va dire,
F5.
Eh bien, à partir du moment où Taylor Kitsch, le héros, se fait embaucher par son frère déjà dans la marine
se fait embaucher car c'est sa dernière planche de salut avant de définitivement tomber soit dans l'alcoolisme, soit en prison pour diverses gribelleries. Eh bien, c'est là que le film prend toute sa substance, à savoir un clip géant à la gloire de cette glorieuse armée américaine et surtout son pendant marin, la glorieuse Marine.
F8 raté.
Et là, eh ben, on nous en met plein les mirettes.
D8
raté. C'est normal. Hein,
B8,
on se rappelle quand même
le petit.
Que Hasbro nous avait sorti un petit peu avant, sous la férule du très intellectuel Michael Bay, les Transformers. Hein. Et donc, on pouvait s'attendre un petit peu au même style. Mais peut-être qu'avec
F4,
Peterberg,
eh bien,
on aurait gagné
F2.
Un petit peu au change. Non, non, détrompez-vous. C'est pas la peine de circuler. Il n'y a rien à voir de ce côté-là. Reste que c'est quand même un film qui est un bon film d'action,
non.
On va dire. Si vous êtes un petit peu décérébré, ça part tout, ça passe tout à fait. L'histoire est tout à fait convenue, ça vous vous en doutez, avec les petites pointes d'humour qui concernent bien entendu la vie privée
des
héros principaux, à savoir le héros qui ne trouve pas mieux que de tomber sur la plus belle fille du film, mais qui est également la fille de l'amiral, donc ça la fout un petit peu mal. Mais par contre, eh bien,
il va pas y arriver jusqu'au bout.
Je crois. Eh bien, on a quand même de ce côté-là. Eh bien,
G4, E4.
Une écriture qui est tout à fait, on va dire,
D5.
Limite et qui cadre bien avec le film, à savoir, un scénario qui est pratiquement vidé de sa substance.
Merde.
Qui s'en tient à l'essentiel. Alors, on ne sait pas pourquoi. Enfin, si, on sait plus ou moins
c'est
que c'est un signal
B2,
radio envoyé
quoi.
Comme ça, très très loin, vers une exoplanète qui fait que ces gens-là, ces envahisseurs arrivent.
Alors, B2
ce qui est assez marrant, c'est que les envahisseurs, eh bien, ont des capsules, sont dans des espèces de scaphandres, des espèces de combinaisons robotesques.
H5,
dont
H3.
L'une ressemble étrangement, on va dire, dans les teintes, à un certain Iron Man.
H7 touché.
On ne sait absolument pas d'où ils viennent. On ne cherche pas à expliquer du tout pourquoi ils ont des caractéristiques physiques qui sont légèrement différentes de celles des humains, mais ça reste
H2.
Quand même des humains avec bien entendu engoncés
D2
dans des grands
scaphandres. 3.
On ne cherche pas à expliquer quelle est l'énorme puissance, on va dire, de leur technologie.
C'est
parce
pas à 3
que
ou quoi
leur technologie guerrière, en tout cas dès qu'ils se sentent attaqués, est bien nettement supérieure à tout ce qui peut se faire, bien entendu, même au niveau des armes non conventionnelles
H1.
Terrestres, mais quand même, comme d'habitude, c'est la marine américaine qui à la fin arrive
D3.
À détruire les envahisseurs, à les exploser bien entendu et à les renvoyer
H6
chez eux, enfin non pas à les renvoyer
touché.
Chez eux mais à leur dire bon moi qu'est-ce, c'est pas la peine de jouer avec tout ça, et tout
navette
s'achève
coulée.
Dans une félicité la plus intense,
ouais.
Avec la déclaration d'amour et la demande en mariage du héros, mais une demande en mariage qui bizarrement, hein, pour faire la vanne de fin comme ça, qui tombe vraiment à plat.
On n'arrivera pas à le déconcentrer.
Ce solde par un non de la part du papa, il ne pourra pas épouser sa fille. Voilà, c'est Battleship donc.
Des 3, des 5.
Universal de Peter Berg. Avec Taylor Kitsch donc dans le rôle du héros. On a Alexander Skarsgård qui joue le rôle de
les
son
deux
grand frère
ratés. Les
mais
trois.
Il meurt au bout d'un certain moment, c'est normal, hein, ils sont en pleine guerre face à des aliens. On a également
G1,
la
E1,
petite blonde avec
C1.
Des gros nibards qui sont certainement pas naturels, qui joue le rôle de l'héroïne, ça le fait bien. Il y a,
j'entends des mots,
dans
là.
Le cadre dans le cadre de la coopération Pan-Pacifique au niveau des différentes marines, un petit
G1, E1, C1
aperçu de ce que peut être une manœuvre navale dans le Pacifique avec tout ce que ça peut compter comme marine nationale, les Japonais, on verra d'ailleurs à la coopération américano-japonaise dans la deuxième partie du
E4,
film qui est assez
E6,
intéressante et tout. Peut-être que c'est pour les chiquous américains et pour leur dire aux Japonais, pour leur dire qu'ils les aiment bien et tout. Pourquoi pas, il y a peut-être du business, il y a peut-être du fric à se faire. Oui, c'est vrai, il y a
E1,
Fukushima,
C1,
il y a plein de trucs à
reconstruire. Non,
donc
déjà
c'est peut-être une bonne opportunité
A1,
pour justement
B2,
essayer de reconstruire le Japonais et décrocher des marchés. Mais là je m'écarte un petit peu du film Battleship.
qu'on peut aller voir quand même et tout. C'est pas la peine de mettre du pognon pour aller le voir en 3D. Non, ça sert à rien. C'est non, laissez tomber. C'est pas assez bien pour ça. De toute façon, ça se regarde tout à fait bien en 2D. Alors il y a les exercices de style qui maintenant vont devenir carrément imposés, à savoir
alors, j'ai dit, l'explosion B2 à 3.
L'explosion et la chute de building façon Twin Towers qui commence à être reproduit dans plusieurs plus de films, mais chaque fois avec des défis différents. Ah tiens, là je vais prendre Hong Kong et je te balancer la grosse tour
à
qui donne
B2
sur le port. Tu vas voir, ça va le faire et ça le fait assez bien. De toute façon, on B2 voit que Peter Berg a bien pris ses leçons auprès de son maître, auprès d'un de ses maîtres du film d'action, à savoir le très célèbre et l'inénarrable Michael Bay. Voilà donc Battleship. Battleship.
G8, H7.
C'est un film du dimanche soir, quoi. Donc, à l'instar du Transformers 2 qui sera diffusé demain soir à la télé. Allez, on passe au film un petit peu plus sérieux après Jean. À présent, ah oui, oui. Et puis, je voulais vous parler quand même de la bande musicale.
B3.
Alors, la bande musicale
B1,
avec les gros C2. Classiques, à savoir du gros hard rock bien bourrin, pas moins de deux morceaux de AC/DC, dont B3, le
boom.
Thunderstruck qui avait déjà été utilisé dans notre film, mais celui-là il marche vachement bien. Donc, on le met un petit peu à
F6,
toutes les sauces.
H6.
Et, par contre, la faute du goût.
G7.
Et ça veut bien dire que on est tombé dans le domaine
G7
de la pop culture. Tout est absolument consommable, tout est absolument rachetable. Et en fait, ce n'est plus tellement le fond, mais
B4,
surtout la forme qui sert à vendre, en fait, et qui est devenue partie intégrante de la société du spectacle, à savoir un morceau qui est complètement antimilitariste et qui est la musique du générique de fin de ce film Battleship. Un morceau de Creedence Clearwater Revival qu'on écoute tout de suite, Fortune Hudson.
Quel timing!
Qui fait partie de la bande de fond du. C'est la bande du générique de fin, mais par contre, c'est un morceau qui est complètement antimilitariste, c'est-à-dire complètement à l'opposé
du film.
Le film lui-même. Allez, on écoute Creedence Clearwater Revival.
On va recommencer de suite dans le supplément week-end numéro 313 par un errata, puisque le petit déjeuner clandestin, c'est le dernier mardi de chaque mois. Excusez-moi. Le vendredi, en général, c'est les invités ou c'est les spéciales. Il y a eu une excellente émission du Data Loan Project où ils ont inversé le programme avec Radio Campus, que l'on soutient puisqu'ils ont des difficultés financières en ce moment. Et donc, en fait, les deux matinales ont été inversées. Ils ont inversé les studios et les jingles ont été refaits pour donner les fréquences de l'autre radio. Donc, c'était vous écoutez FMR 94 FM, vous écoutez Radio Campus 89.1. C'était très très drôle. Il y avait vraiment une très saine ambiance. Thomas, je crois qu'on reste dans le super-héros et on va super voler.
Voilà, et on va commencer.
Et les numéros de la station vous sont ouverts, s'il vous plaît.
D'ailleurs, nous saluons... Oui, on va commencer par le saluer parce que c'est la moindre des politesses. Benoît est avec nous. Bonjour Benoît.
Bah non, il est pas là.
Il est pas là ?
Il est pas là.
Comment ça, il est pas là ?
Il est pas là, je lui ai dit de rappeler pendant le morceau.
Bon, Benoît va nous rappeler. Alors, nous attendons que Dusport revienne dans les studios puisqu'il allait faire la pause, on ne sait pas quoi, en haut. Allez, Dusport, installe-toi. On va commencer notre petite séance de rattrapage. Super-héros, va... Marvel, avant.
Ah non, fallait se taire du coup, parce que du coup, ils vont foncer. Voilà, bonjour.
Bonjour. C'est bon, je suis là.
Bon, juste une chose, alors le temps de ralentir, il y a une chaîne qui va fêter ses 5 ans en juin, et ils vont passer...
Quelle
une
chaîne
nouvelle... Ils vont passer une série qui s'appelle Kids on the Slope, qui est la série des créateurs de Cowboy Bebop et Samurai Champloo. Et c'est
donc,
une histoire...
de qualité, donc.
De qualité musicale, sachant que ça se passe en fait en 1966, des lycéens découvrent le jazz et montent un orchestre de free jazz.
Oh.
Yoko Kanno à la musique.
D'accord.
Diffusion au Japon à partir de cette semaine. Et ça arrive donc, si je ne me trompe, le 23 sur No Life.
Mais joli coup pour nos amis de No Life.
Très joli coup, je peux vous dire qu'on l'attend tous sur les charbons ardents. Infested, comment vas-tu ?
Bah ça va, et vous ?
Eh ben
bah,
nous, ouais.
Je vois que la petite partie de toucher coulé a...
C'était un sacré bordel à organiser.
Pauvre du sport oui. qui a dû parler tout seul.
Oui, c'est surtout que ça m'a rappelé un test d'un grand animateur, enfin d'une web série qui s'appelle Le Joueur du Grenier, où il nous avait testé un silent service. Et là, quand vous avez commencé à parler, quand vous avez commencé à parler du truc, j'étais là, puis un battleship, ça me dit quelque chose. Ah, Silent Hunter, ça y est, les trucs des sous-marins, tout le bazar.
Eh ben non.
Bref, n'oubliez pas que vous pouvez répondre aussi sur le hashtag SWE sur Twitter si vous nous écoutez en live sur le stream.
Oiseau bleu.
Voilà, et je ne peux pas en même temps redonner l'adresse du stream tout simplement parce que je suis en direct, c'est beaucoup. En même temps qu'on a fait une séance dégustation et qu'on a fait une revue de presse, l'agenda et une chronique BD et tout ça en moins de 37 minutes. Donc je crois qu'on est un petit peu saturé. Bref.
Alors on va juste bon parce que tu m'as fait parler le fil. Voilà, donc je suis sur le petit oiseau bleu, je fais la veille, OK. Alors déjà, ça va être compliqué d'appeler Infested. Donc c'est comme les mots à particules, on dit de monsieur de machin
Infest.
Donc
Infest ou tu dis IG.
D'accord. Et Benoît, c'est pas mieux ?
Tu fais comme tu veux.
Ah, ça, moins d'enthousiasme là pour Benoît. Bon, tant pis. Alors, vont participer donc Daskreech, du sport et Benoît.
C'est dommage parce qu'on a deux lignes téléphoniques supplémentaires. J'aurais pu tenter de joindre d'autres personnes pour les rajouter, mais je crois que là ça aurait été un petit peu périlleux.
Alors, je dégaine mon crayon. Voilà. Alors là, il va falloir que je me retrouve parce que j'ai pas noté les réponses en fait. Donc, je connais tout de tête. J'ai fini le quiz ce matin.
En plus, je vais te dire, pour ce coup-là, j'avais montré sur justement le réseau Oiseau Bleu que je m'étais un peu préparé, mais en fait, je vais te dire, j'ai passé une demi-heure à bien préparer les écrans, à aller chercher tous mes trucs, mais j'ai rien préparé.
Ah bon, ça va alors.
Oui, ça va. C'était le but aussi, hein, c'était que ça voilà. Soit pas préparé du tout. Donc j'ai pas pris mes encyclopédies. Et non, Madame Dusport ne peut pas nous joindre aussi sur mon portable pour être en insert téléphonique si elle le souhaite à la volée.
Donc Dusport
peut le tenter.
Ne doit jouer que tout seul. Et tu es tout seul aujourd'hui. Alors, nous allons dévoiler l'intitulé exact du quiz au dernier moment. Sachez juste que c'est une petite séance de rattrapage pour bien réviser ces Vengeurs qui déboulent sur nos écrans dans une dizaine de jours. Donc,
le film, hein, précise que c'est le film, parce que ça fait déjà un petit moment qu'une chaîne de télévision publique diffuse un animé là-dessus.
Voilà, donc il s'agit du film Avengers, réalisé par Joss Whedon. Et donc le quiz s'intitule...
Oh, Buffy.
Voilà, merci. Le quiz s'intitule Vengeur, mais pas que, mais avec des pièges.
Oula.
Vengeur, mais pas que, avec des pièges. Question 1. Pour m'adapter sur grand écran, mes producteurs sont allés chercher un réal qui avait suspendu en l'air des nanas avec des épées.
Ah, oui, je sais, Hulk.
Ah.
Très bien, Xavier, un point.
je suis un puceau réa qui s'habille en pyjama rayé. Ah, pas rayé, ouais, non, c'est, il a des accessoires rayés, pardon.
Ah, bah oui. Oh, merde, le frelon. Non, le frelon vert.
Allez, ah, non. Du sport.
Ah, merde.
Mais enfin, oui, je suis enfin, il est plus puceau depuis longtemps. Hein.
Ouais, mais bon, c'est tout comme.
Vas-y, hein. En passant.
Voilà. Alors, mes cons de ravisseurs m'ont aidé à m'échapper d'une grotte en me donnant de quoi fabriquer des missiles.
Iron Man.
Très bien.
Tony Stark.
Parfait. Tout le monde connaît mon nom, mais en fait, j'existe vraiment et je m'entends pas trop avec mon frère.
Bruce Banner, Hulk ?
Non.
Non, hein ? Non, non.
Je m'entends pas trop avec mon frère. Tout le monde connaît mon nom, mais en fait, j'existe vraiment.
Superman,
je viens de loin. Mais non, c'est la galaxie Avenger, voyons.
Je ah,
suis,
merde.
Je suis un blondinet, je viens de loin.
Thor.
Voilà. Ouais, ça, Alors, je suis un savant et moi aussi, je me transforme en gros machin.
Ah oui,
Hulk.
Eh non, puisque moi aussi, je me transforme en gros machin, ce n'est pas Hulk.
Ant-Man.
Bravo. Ouais, Ant-Man, allez, on peut dire Ant-Man, ouais.
Bravo,
Ant-Man,
bravo.
C'est Ant-Man à la base.
Voilà. J'ai une arme, mais là où les autres l'utilisent le dimanche, moi, je balance des éclairs avec.
Torna.
Ouais.
Ah non.
Ah, Benoît est très en forme. J'ai une arme, mais moi au moins, c'est moi qui l'ai fabriquée.
Ah bah ça, c'est Iron Man.
Voilà. J'ai été incarné par un mec qui se baladait en maillot sur une plage. C'est plus dur,
oula.
Ça.
Oula. 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 Le sourire.
Alors, foiré.
J'ai été incarné par un mec qui se baladait en maillot sur une plage.
Pense... Nick Fury.
Bravo.
Oh, oh punaise, bravo.
J'ai été incarné donc par David Hasselhoff. Alors
oui,
pensez
oui
aux multiples adaptations. Attention, on m'a sorti d'un glaçon et j'ai du mal avec les trois coquillages. C'était un piège. J'ai du mal avec les trois coquillages.
Ah, Ah putain, c'est pas...
On m'a sorti d'un glaçon. Donc pensez cryogénie.
Putain,
trois coquillages.
Putain, c'est pas la Station Hero, c'est Demolition.
Bravo, ouais, allez.
Demolition Man.
Voilà.
Ouais.
Ah. Alors, j'aime bien péter des tanks avec mes bras.
Hulk,
bravo. J'aime pas qu'on pète mes tanks.
Ah bah ça c'est Nick Fury.
Mes tanks à moi.
Captain America.
Ouais, mes tanks, c'est moi qui les ai fait quoi.
Tony Stark.
Voilà.
Oui.
Alors, c'est du sport.
Même s'il fait un peu moins de tanks et plus d'armes à laser quand même.
Oui, aussi. Putain, ils ont changé les tanks.
Oui, oui. Non,
Captain
fait,
America.
Oui.
Ouais. Benoît, t'avais répondu avant ?
Non, j'avais pas répondu. Là.
D'accord, allez, un petit X.
On pourra pas faire le replay là aujourd'hui.
Voilà.
Allez, question 13, il y en a 20 en tout. Je sors avec un mec beaucoup plus grand que moi.
La guêpe.
Bravo. Ah là c'est vrai qu'on
ouais,
entre dans le culturel
évident,
plutôt comics. Là c'est Benoît qui nous éclate à plat de couture hein.
Non c'est sur l'anime tu l'as aussi donc,
ah ben voilà
c'est...
Il faut bien réviser ses animés aussi. Mon alter ego DC Comics a l'air d'une tafiole habillée en vert. Mon vrai nom est Clint Barton.
Le Hawkman.
Bravo. Donc c'est œil de faucon en français.
Œil de faucon ouais.
Alors du sport okay. Voilà.
Ok ouais.
Qu'est-ce que t'as contre le vert?
Hulk. Faut pas l'énerver là.
J'ai remplacé Tony Stark à la tête du Shield qui est devenu le Hammer.
Norman Osborn.
Ouais, parce que du sport on a beaucoup parlé sur cette émission avec le fameux cycle des Skrulls, paix à son âme. Moi aussi je suis une divinité qui balance des éclairs, alors faites pas chier.
Thor, mais j'ai un doute là. Thor.
Ben non, c'est l'autre divinité qui balance des éclairs avec lui.
Oh, ah.
Là, il faut élargir à la galaxie Marvel, mais pas que Avenger là.
Oui, là.
Moi aussi, je suis une divinité qui balance des éclairs. Alors,
bah,
faites pas chier.
C'est Loki.
Bah, c'est Zeus.
Non.
Ares. Hercule.
Pensez aux comics. Les comics plus célèbres.
Oh.
Je suis une fille.
Tornade.
Bravo. Et Tornade, oui.
Tornade.
Je suis une divinité africaine.
Et oui. Oui.
Je suis récurrent dans tous les films de la franchise Avenger et j'ai une moustache.
Stan Lee.
Bravo.
Pas mal.
Celle-là, elle est bien.
Moi aussi, j'ai fait partie du programme de Super Soldat, mais je suis beaucoup moins gentil que Cap.
Non, pas Crâne Rouge.
Non.
War Machine.
Non.
Non.
Programme de Super Soldat. Alors, je suis plutôt petit.
Ton acolyte. Ah, je l'avais tout à l'heure.
Ça, c'est petit. Et je suis pas très docile, en fait.
Bucky.
Je suis incapable de répondre.
Ah, c'est plus, pensez au film. Il était très popularisé dans les films récents. Et j'avais une mutation à la base. On m'a inoculé le. Ça fait partie du programme Super Soldat, mais c'est pas un sérum.
Ah, Wolverine.
Voilà.
Oh merde.
C'est vrai que celle-là, c'est l'univers Marvel. Il y a X-Men aussi.
Mais oui.
J'ai pas oublié celle-là.
Et attention, dernière question. J'ai réussi à transformer Choupette en série culte.
Joss Whedon.
Voilà, Joss Whedon. Là, il fallait suivre l'émission avec le film Buffy qui s'appelait Choupette. Voilà.
Je récupérerai le podcast et je recommencerai.
D'accord.
Merci d'être à notre écoute, Infested. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous et d'avoir pris plaisir. Voilà, et bonne écoute.
Allez. Au TGS Tsunami, merci d'avoir balancé ma vanne.
Oui. je te l'ai crédité. En
fait. Je l'ai vu, mais c'était franchement évident. Pile entre les deux tours.
Ouais. Mais on a d'ailleurs, c'est un manque de l'agenda. Je viens de m'en rendre compte, c'est qu'on n'a pas cité qui serait au TGS Tsunami. Donc mémoire.
T'as Thomas qui l'avait fait la semaine dernière.
Il y aura Clive Simon, David Nickle, il y aura également Carmen Argenziano, tous ces gens de Stargate.
Il est fait de mémoire. Hein.
Oui, il y aura également Brigitte Lecordier qui est doubleuse de dessins animés. Il y aura le groupe de Visual Kei D, groupe japonais. Il y aura également le joueur du grenier,
Marcus,
Davy Mourier, Caroline Segarra, pardon. Excusez-moi, voilà, entre autres, hein, bien sûr. Donc voilà, écoutez, merci Benoît d'avoir participé. Et puis,
Dernière minute, Luciana Caro qui sera présente aussi, qui faisait partie du cast de la série Battlestar Galactica. Merci Ben, à plus, un de ces quatre.
Allez au TGS, salut. Ah,
ciao.
Gars.
Alors je finis mon décompte. 1, 2.
Oui, parce qu'on fait beaucoup de choses quand même à la fois. Hein. C'est un peu le bordel.
3. Allez, ah mais non, attends, 1, 2, 3, 4, ok, donc grand vainqueur, c'est du sport bien sûr, avec 10 points, talonné par Xavier avec 6,
oh
et Benoît avec 4 points. Voilà.
Pas mal, et Thomas 0.
Eh oui.
Bah oui, forcément.
Alors voilà, donc ce petit quiz pour se remettre un peu dans le bain, puisque le film de Joss Whedon, les Vengeurs, donc Avengers en VO, sort dans une dizaine de jours. Et nous allons organiser une petite séance de rattrapage sur des films que nous n'avions pas chroniqués sur cette antenne, à savoir Thor et Captain America, deux films pour le prix d'un, deux films qui sont sortis au cinéma en 2011.
Cinéma.
Il y a quelques mois d'intervalle.
Remember when life's... We're so tender and happy.
Voilà, deux films qui étaient sortis à plusieurs mois d'intervalle, qui sont tous les deux sortis depuis en DVD. Alors c'est vrai que ça avait un parfum un petit peu bande-annonce de luxe, à plusieurs centaines de millions de dollars chaque bande-annonce.
Oui.
On va essayer de tout caser, tous nos super-héros, tous les Avengers, avant le film Les Avengers de Joss Whedon. Donc voilà.
Si formalage, on peut encore en caler un sur le côté. Vas-y.
Voilà, c'est ça, ouais. Alors on va essayer de faire un casting poids lourd pour montrer qu'on a plein de galeries de personnages chez Marvel. Donc
c'est le grand poster en fait. D'ailleurs, ça fait presque le format Panamscope. Hein.
Oui, d'accord.
Oh, super!
Alors, Thor, c'est un film, réalisé, c'est bizarre, hein, par Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, à qui on devait les adaptations de Shakespeare, Frankenstein et plein de classiques de la littérature. Et cette fois-ci, il est aux commandes d'un mastodonte avec des armes qui brillent et des lasers de partout.
Triple classique de la littérature, les légendes originelles, la tétralogie de Wagner et donc le comics.
Eh oui, tout à fait, Thor, multimédia, avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Colm Feore, Ray Stevenson et René Russo.
Oh.
Eh oui, quand même.
Eh oui.
Voilà, alors, viré du royaume d'Asgard après avoir foutu la merde entre deux mondes parce que c'est un jeune con, Thor est déchu par son père Odin, banni et envoyé sur Midgard. Ouais, donc Midgard, c'est la terre pour les Vikings. Pour apprendre la vie et faire ses preuves. Il atterrit sur le camion de la chercheuse en tempête. Ah, ça tombe bien. Jane Foster, Natalie Portman, qui n'est pas insensible à ses beaux bras musclés. Pendant ce temps, Loki, le frère de Thor, remplace son père qui est mystérieusement tombé malade. Ça, par exemple. Alors voilà, on en a parlé. Donc, Kenneth Branagh, le très shakespearien acteur et réalisateur,
britannique et donc irlandais, je crois d'ailleurs, aux commandes de cette adaptation de Thor. Alors ça pouvait surprendre, et en fait quand tu vois le film, ça surprend pas du tout, puisque ils ont en fait le principal problème de Thor, c'est que alors déjà selon moi, c'est que c'est la veine un petit peu DC Comics de Marvel, c'est-à-dire que c'est du space opéra, c'est des gens qui sont pas du tout new-yorkais, pas du tout issus de la terre ferme, du plancher des vaches, non ce sont des gens qui planent et qui viennent sur Terre pour se bastonner à grand renfort de gros super pouvoirs. Donc c'est un peu la veine Superman, Wonder Woman, des trucs comme ça de DC. Et donc là évidemment on pouvait pas aborder Thor comme on aborde Spider-Man avec le petit étudiant qui se fait mordre par une araignée et qui affronte des savants fous, voilà. Donc là non, Thor c'est juste le fils d'Odin, gros dieu par excellence. Alors il faut dire que les soucis qu'a Thor depuis son enfance, ça a rien à voir avec les soucis de Bruce Banner qui était un chercheur et tout. Non, lui c'est il se confronte à d'autres mondes, il tabasse du gars avec son gros marteau.
Les géants.
Voilà, il y a tous les gens qui côtoient sont tous des gros baraqués en armure avec des ponts arc-en-ciel qui envoient vers d'autres galaxies et tout. Le mec, c'est pas un peu, c'est pas nos préoccupations à nous, tu vois, alors que bon, les autres héros, même si, bon, il y avait les mutants, mais bon, ils étaient ados comme nous, on pouvait s'identifier, bon, Thor, c'est pas la même chose, hein. Bon, voilà, donc, c'est vrai qu'on n'aborde pas ça comme on aborde Spider-Man, donc c'est pour ça qu'ils ont fait appel à Kenneth Branagh, qui avait l'habitude un petit peu de mettre en scène des destins, des luttes de pouvoir pour des héritages à la Shakespeare, avec des rois, des royaumes, etc. Donc c'était finalement un bon réalisateur pour cette franchise. Alors et finalement, quand tu vois la bande-annonce avant de voir le film, tu te dis pourquoi ils ont foutu Asgard avec des brillances de partout, ils sont tous en t-shirt, alors que moi franchement Asgard c'était le chevalier du Zodiac, c'était il neige tout le temps, des gros moustachus qui sont avec des polaires et tout. Oui, fallait qu'on place. Bah oui, forcément. Bah Asgard, bah voilà, c'est de la neige, voilà, des montagnes et tout. Les mecs, voilà, ils ont passé leur enfance sous les skis quoi, presque. Et ben là non, Asgard il est sans t-shirt, il fait soleil. Bon. Je dis pourquoi pas, Anthony Hopkins qu'on a vu quand même vachement mauvais dans beaucoup de films, en cabot, voilà, et ben là, il est en armure qui brille aussi, autre référence à Senseiya, combo. Et finalement, Asgard, ben ça, c'est ça qui passe mieux. À la grande surprise, c'est-à-dire que tu croirais dans Riddick, c'est-à-dire que le mec, il s'empare, il fait du space opéra, il fait un monde des glaces tout sombre, c'est des méchants, c'est des espèces de titans un peu malsains.
C'est les géants des glaces.
Les géants des glaces, oui. ils arrivaient pour essayer d'envahir Asgard. Alors,
oui, mais c'est parce qu'on les a emmerdés au départ. Hein.
Oui, voilà, c'est un film qui a pas de nuances de. C'est pas noir et blanc, c'est que des nuances en gris. Bon. Super héros, bon, les nuances en gris, bon, c'est quand même vachement contrasté quand même. Hein, le gris, bon, tu fais un petit contrôle M sur Photoshop et hop là, tu fais les noirs et les blancs de chaque côté. Bon, et finalement, ouais, c'est ce côté space opéra étonnamment qui marche mieux. Parce que dès que Thor il arrive sur Terre, ben, qu'est-ce que c'est plat ? Thor, ben, bon, alors, il y a quand même un passage qui est vachement bien. C'est que par rapport aux autres films de la franchise Vengeur, et bien en fait les agents du SHIELD sont beaucoup plus présents. Il y avait des gags dans Iron Man avec cet agent du SHIELD dont on se rappelle jamais comment il s'appelle, qui essayait d'avoir un rendez-vous désespérément avec Tony Stark. S'il vous plaît, on pourrait parler et tout, et puis à la fin tu aperçois que c'est le SHIELD. Ouais. Ben là le SHIELD il est dès le départ, c'est eux qui trouvent le marteau, et le marteau c'est comme l'épée d'Excalibur, c'est-à-dire il y a tout le monde qui veut arracher le marteau de la Terre, sauf que Odin a ensorcelé ce marteau, et quand il a déchu Thor de ses pouvoirs, il a dit, il a chuchoté à l'oreille du marteau, comme Robert Redford faisait avec les chevaux en son temps, et il dit celui qui aura la capacité nécessaire et la grandeur d'âme et le pouvoir de dévouement pour mériter les pouvoirs de Thor pourra brandir le marteau. Et donc évidemment, eh bien, Thor essaie de le retrouver, son vieux Mjolnir, et il n'y arrive pas, parce que c'est un jeune con, et il ne connaît rien à la vie, ce gros con. Donc voilà, il a eu tous les pouvoirs depuis qu'il est tout petit, et puis là, il sait pas quoi en faire, parce que c'est un naze. Et donc, du coup, pendant tout le film, ça, on va suivre Thor, essayer de retrouver ses pouvoirs, essayer de se prouver à lui-même qu'il peut mériter la confiance de son père. Parallèlement, Loki essaie de faire des siennes au royaume d'Asgard. Donc c'est on voit Thor essayer de récupérer son marteau. Il y a une petite apparition de Jeremy Renner dans le film. Alors pourquoi Jeremy Renner ? C'est parce que Jeremy Renner, eh ben tu l'as dit tout à l'heure, c'est Hawkeye.
Alors pour l'instant il a pas de nom. Bon, on voit il y a une petite apparition pour l'introduire, voilà. Et c'est vrai que on voit un peu plus le Shield. Alors à part ça, sur Terre, bon, Natalie Portman, c'était la même année où elle avait fait Black Swan. C'est lié au rôle, mais elle sert à rien quoi. Il y a
c'est la quotient féminine. Hein,
on va dire. Ah non, mais là le quotient féminin, ah. Tous les autres nanas.
Faut bien qu'il y ait une bluette.
Ah mais là, mais autant déjà Elizabeth Ross dans Hulk. Est un peu passable malgré le fait qu'elle soit incarnée à la fois par Jennifer Connelly et par Liv Tyler quand même, excusez du peu, mais là Natalie Portman c'est pire que tout quand même hein. c'est la nana qui j'étudie les tempêtes, oh elle nomme ton débit du ciel, voilà. Bon, c'est un peu le côté un peu manquant du film. Ceci dit, Thor reste un excellent divertissement. On va pas dire que tu t'éclates à voir le film, mais tu passes un bon moment. Non, franchement, bien, on aurait pu rater ce film. Il n'en est pas. C'est pas le cas. Le casting, à part Portman qui ne peut rien faire à partir de son rôle, ben la double révélation, c'est Chris Hemsworth et Tom Hiddleston. Hein. Hemsworth, il est parfait. Parfait en Thor.
Oui, on avait des gros doutes quand même. On se disait, bon, ok, c'est quand même lui le personnage central. Le film repose sur ses épaules, hein, au propre comme au figuré.
Et puis on va dire que dans la galaxie Marvel, la galaxie Vengeur, à part peut-être Hulk, c'est un peu le gars qui peut leur mettre la pâtée à tous quand même. Donc il fallait avoir un gars qui porte sur ses épaules. Et puis non seulement il assure en apportant sa stature, mais il assure aussi en charisme. Parce que bon, c'était pas évident non plus. Ils auraient pu prendre Taylor Kitsch ou les gens, Taylor Lautner de. Connais Taylor, tiens. De la franchise des Twilight. Bon, non, le mec, on voit qu'il a quand même quelque chose qui passe dans le regard, etc. T'as toujours. Bon, évidemment, on parle de Viking, donc il faut la quotient danoise. Donc évidemment, c'est Stellan Skarsgård, encore loin de Lars von Trier qu'on avait aussi vu dans chez Fincher pour le Millennium. Donc là, cette fois-ci, toujours impeccable. Il s'est jamais loupé. Même dans des boosts comme Ronin, il a toujours été impeccable. Et puis voilà. Anthony Hopkins, franchement, il cabotine, mais ça passe.
Oui,
voilà.
Ça va quoi.
Ça façon... passe. Donc voilà, Thor. Ben franchement, on attend pour la suite un scénario digne de ce nom. Maintenant qu'on a introduit les personnages, on va pouvoir s'amuser avec les franchises. Et puis franchement, un adversaire à sa mesure, quoi. Parce que là, Loki, bon, c'est Loki, c'est pas un gars, c'est pas un gros gars musclé aussi. Donc Thor, on a envie.
Je suis le traître et je fais pas beaucoup de muscu.
Alors par contre, moi, je vais revenir sur ce que tu as dit avant au sujet de Thor et à sa différenciation par rapport aux autres super-héros de chez Marvel. C'est que Thor, à l'origine, dans la bande dessinée, s'il apparaît dans une histoire comme ça, un petit peu Deus Ex Machina, c'est le cas de le dire. Mais très vite, les scénaristes lui font acquérir, justement, c'est l'histoire originelle, hein, c'est-à-dire qu'il fout le bordel, quoi. Asgard, donc il se fait virer par Odin et il se retrouve sur Terre. Mais très vite, parce que le personnage plaît dans les comics, eh bien, on va s'attacher à lui donner une identité civile. À l'instar des autres héros.
La fameuse identité Blake.
Voilà, c'est ça. Ah. Hein, le Toubib, celui qui a la canne en plus. Quoi.
D'ailleurs, il y a une allusion, un petit clin d'œil dans le film, puisque justement, il y a Skarsgård qui arrive pour l'enlever des griffes du Shield en disant « Oui, c'est mon confrère, il a perdu la mémoire, il est un peu fou, mais c'est un docteur, il s'appelle d'ailleurs, c'est le docteur Blake. »
Ouais, ouais. on a tout de suite compris, hein, de toute façon. Voilà. Quoi. Bon, voilà, hein, pour dire, il y a également un alter ego dans les comics qui se... Et après, qui revient plus ou moins quoi selon les différentes époques, on va dire, où Thor a été un petit peu plus développé quoi par Marvel.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'adaptation Thor. Voilà, donc on attend, parce que bon, dans les BD c'est quand même un gars qui est capable d'arrêter une invasion d'extraterrestres à lui seul, juste avec un coup de marteau et quelques éclairs. Donc le mec, on sent qu'il a du potentiel. On l'a pas encore vu vraiment s'énerver, on n'a pas eu d'adversaire à sa hauteur, il n'y a pas de scénario vraiment bien glauque qui le fout en rogne ou qui le met un peu en danger. Là c'est la présentation du personnage, on a vraiment l'impression d'une bande-annonce géante. Donc on va voir peut-être pour la suite. On attend de voir vraiment, parce que le personnage est sympa, il est bien incarné et tout. Donc on attend la suite, on attend aussi de le voir faire des étincelles avec ses petits copains des Vengeurs. Pensons
passons à Captain America à présent. Donc le titre est encore plus étudié pour préparer les Avengers, puisque c'est Captain America First Avenger. En gros, Captain America, c'est pas juste un personnage qui se suffit à lui tout seul, c'est juste le mec qui a été le premier des Avengers qui arrive. Oui. Donc c'est un peu réducteur quand même, hein. Film réalisé par Joe Johnston, un vétéran du film d'aventure qui était auteur notamment de Jumanji, qui avait commencé sa carrière dans le sérail de George Lucas à faire les effets spéciaux sur l'épisode 4 de Star Wars, donc l'ancienne trilogie. Donc c'est un mec qui connaît son métier, qui a l'habitude des films d'aventure, des films de space opéra, des films d'action. Donc il met en scène devant la caméra Chris Evans, Hugo Weaving. Donc Hugo Weaving, je vous laisse deviner si c'est gentil ou un méchant. Hayley Atwell, Tommy Lee Jones, qui est énormissime. Enfin bon, on va pas exagérer non plus, mais on voit que c'est quand même un acteur qui peut faire rire en dehors des Men in Black, et il est vraiment excellent. Et également Stanley Tucci qui joue dedans. Alors voilà, Tommy Lee Jones, c'est, alors l'histoire, c'est bon, c'est des Steven Rogers qui est donc un frêle américain, new-yorkais de Brooklyn, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui passe sa vie à se faire tabasser, qui est pas à l'aise avec les filles, qui ressemble à rien, qui est tout frêle, chétif, et son rêve ultime, c'est de rejoindre ses petits copains américains sur le front européen pour buter des nazis.
Ouais.
Sauf qu'il est un peu réformé de partout, il n'y arrive pas, il est asthmatique, le pauvre et tout. Et justement, il y a un ancien chercheur des nazis qui a quitté justement les nazis.
Huberman, il s'était pas d'accord.
Voilà, qui est par acquis de conscience, il est allé rejoindre l'Ouest. Et donc, il a emmené avec lui quelques recherches, quelques expériences sur des mystérieux sérums pour créer une armée de super soldats. Sauf que, y a un souci, c'est que y a le premier soldat, c'est le cobaye Steven Rogers qui est repéré, casté par ce fameux scientifique. Et en fait, suite à un sabotage, on peut pas dupliquer le sérum, donc il est l'unique super soldat. Donc imaginez la gueule des militaires, on leur avait promis une super armée, ils ont juste un pauvre soldat, il va falloir lui trouver une utilité à ce soldat, parce qu'il n'a pas fait ses classes vraiment de soldat, il n'est jamais allé au front. Donc du coup, on va l'habiller de façon ridicule, et puis on va lui faire faire des shows à travers les États-Unis en sous l'identité de Captain America, en disant « regardez, le gars il est super fort, mais allez, I want you, quoi. » C'est
c'est
une opération de recrutement. Et puis le mec, il en a un peu marre à un moment donné, surtout que son meilleur ami, il est porté disparu. Donc il dit, je vous emmerde, je vais aller faire ma vendetta tout seul. Et puis, à l'instar d'un célèbre John Rambo, il arrive, il revient avec des prisonniers de guerre. Et voilà. Et donc, l'aventure commence. Parallèlement à ça, il y a un autre scientifique, parce qu'il faut toujours deux faces de la science. Et le scientifique des nazis s'appelle... il est à la tête de l'Hydra, donc c'est Hugo Weaving, c'est le crâne rouge. Et voilà, donc ça va être des bastons de pistolet laser et de super pouvoir.
Pistolet laser.
Et ouais, pistolet laser allemand. Et oui, puisque il tire sa source d'un pouvoir occulte, puisque les Allemands, on a vu comme dans ils ont cherché l'arche perdue, ils ont échoué, donc ils ont essayé d'autres sources de pouvoir mystérieux. Alors on est un peu, c'est plutôt la veine Hellboy, on va dire. C'est à un moment donné, quand il enlève son masque et qu'on voit la peau rouge, pendant une microseconde, je me suis dit Hellboy, oh merde, non, ça n'est pas.
non, c'est l'autre camp.
Voilà. Sinon, on est vraiment dans la veine steampunk. Et là, ça fait plaisir, parce que du steampunk, on en a un peu vu, on en est un peu revenu aussi, et là, c'est vraiment une réussite. Alors, déjà à la base, Captain America, c'est le gars chiant, on peut le dire, c'est le gars chiant qui a rien pour lui. Au moins, Tony Stark, il a rien pour lui au départ, mais c'est un gros chercheur et c'est lui qui se fait tout seul. Captain America, non seulement il a rien pour lui, et en plus, c'est les gens qui lui donnent des pouvoirs. C'est-à-dire, toi, on va te donner des pouvoirs. C'est-à-dire, c'est même pas lui qui est à l'origine d'un accident nucléaire ou d'un accident de rayon gamma et tout. Non, on lui donne tout. Donc, du coup, au début, c'est quelqu'un qui a rien et on te donne tout. Alors, c'est un peu, je vous ai fait le sens de rattrapage couplé avec Thor. C'est l'antithèse de Thor, bien sûr, parce que Thor, il sait rien faire avec une force démesurée, c'est un gros con. Et l'autre, il a une vraie valeur à l'intérieur de lui, mais il a rien pour lui, le pauvre. Et donc, c'est vrai que donc Captain America, c'est ça qui est un peu qui emporte l'adhésion, puisque c'est le mec, tu t'identifies à lui, le gars qui passe son temps à se faire tabasser. Et là, la phrase qui résume le film, c'est le docteur qui lui dit Rogers, il lui demande pourquoi moi. Et le docteur lui dit vous savez, quelqu'un qui a été faible connaît la vraie valeur de la force. Parce qu'il dit le super sérum, ça augmente autant les forces que et le côté bon que le côté mauvais. C'est pour ça que le Red Skrull, le crâne rouge, est devenu hyper hyper mauvais alors qu'il était super super méchant juste au début. Alors Captain America, on pouvait faire de la merde avec ce truc parce que
ouais, c'était
un gars en collant bleu qui a le...
Il y a eu de la merde, il y a eu deux téléfilms qui sont sortis au cinéma à la fin des années 70 qui étaient particulièrement moisis.
Et ben oui, et puis en
ils
plus,
sont en Anarland.
Et puis en plus le mec il roule même pas pour lui, il roule pour son pays. Et le mec, on peut pas faire plus désuet que ça aujourd'hui. C'est-à-dire l'heure est on est à l'heure du héros qui souffre, qui est dans sa grotte. On a le Dark Knight.
Si c'est pas l'ultra-individualisme, on est absolument contre finalement les valeurs patriotes et tout ça. Ça ne marche pas. On est en pleine déconfiture après 8 ans de Bush et de guerre qui ont mené nulle part.
Et donc là, en plus, c'est vrai, c'est bien parce qu'ils ont respecté le fait que ça se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, la seule erreur du film, à mon sens, qui était déjà à l'origine, et Chris Evans n'y est pour rien, c'est qu'ils ont pris le gars qui joue la torche. Ils ont pris le gars qui joue la torche dans la fantastique. C'est-à-dire que d'emblée, ils se privent d'un crossover. Ils se privent. Et en plus, il est à l'opposé parce que c'était un flambeur à tous les sens du terme. dans les Quatre Fantastiques, c'était un mec qui avait une nana dans chaque bras, qui volait, c'était le gars fun de la bande, et puis là, c'est le gars chiant. Bon, il y en a plein quand même des Américains à la mâchoire carrée, blond, plutôt bien foutu et tout. Pourquoi ils sont allés choper le gars qui joue la torche? Bizarre. Donc, à part ça, Hugo Weaving fait du gros méchant normal. Dessin animé, voilà. C'est l'agent Smith, mais sauf qu'à la place d'être en costard, il est en costume de nazi, voilà. Tommy Jones, je l'ai dit, vraiment très très drôle, puisque c'est vraiment le militaire bourru de base. Il voit arriver dans sa l'œil cet avorton, et puis il arrête pas d'essayer de prouver à tout le monde qu'il fait pas l'affaire, et à chaque fois il fait l'affaire, il dit « Ouais, mais bon, ça reste un avorton !» À un moment donné, avant la grande grande mission de fin, évidemment, la nana embrasse Captain America et Captain America se retourne vers le gars bourru et l'autre il regarde. Non, je ferai pas de câlin moi. Alors c'est Tommy Jones qui le dit, donc c'est très très drôle. Et le film reste une réussite, mais ça reste une réussite, c'est pas à l'Iron Man, puisque aujourd'hui évidemment c'est les aspérités qui remportent l'adhésion. Un gars tout lisse qui travaille pour son pays et qui a aucun vice et qui boit pas. Difficile d'avoir des posters dans sa chambre à partir de ce gars-là. Mais dans le genre trop bon, trop con, ça marche. Donc on pouvait faire de la bouse, il n'a pas été le cas. On voit le charme du steampunk à plein régime. C'est bien fichu, t'as un certain charme qui émane de ça. Et puis cette fin du film qui fait la jonction avec les Avengers, mais pas même pas dans la fin du générique. C'est avant le générique de fin, on voit que qu'il va être intégré facilement à l'équipe. Donc voilà, Captain America First Avenger reste un excellent film d'aventure. Franchement, je ne comprends pas qu'il soit tant passé inaperçu finalement que ça. Peut-être la période de sortie et peut-être trop de super-héros en même temps, puisque faut avouer qu'il était en full frontal avec Green Lantern. Et puis quelques semaines seulement après la sortie de Thor, donc c'est vrai que ça a un peu déjoué contre lui. On attend aussi une suite par rapport à ça, puisqu'on attend de voir Captain America se confronter au monde moderne. Il a été ramené de son glaçon et puis je pense que ça va faire des belles étincelles pour le film Avenger. Évidemment dans ces deux films, il faut rester après le générique de fin, puisque à la fin du générique de Thor, on voit que Loki fait encore des siennes. Et à la fin de ce générique là, c'est l'après-générique qui est le moins marquant, puisqu'on voit Cap en train de défoncer un sac d'entraînement dans une salle de boxe, et puis il y a Nick Fury qui arrive. Et puis ça fait un écho à une discussion qu'il a eue avec un autre instructeur au début du film, et Nick Fury arrive et lui dit alors soldat, je sais plus ce qu'il lui dit, et puis Cap il lui dit vous essayez de me réintégrer au monde, et puis Nick Fury avec un énorme zoom sur sa tête il dit non, j'essaie juste de le sauver. Paf, écran noir, voilà, les Avengers seront dans 10 jours. Captain America de Joe Johnston avec Chris Evans dans le rôle titre, je vous le commande.
Avec beaucoup d'impatience, effectivement. Autre film très attendu, c'est la reprise qu'on ne sait pas si c'est vraiment une reprise ou une préquelle, puisqu'il dit ça part de là, mais c'est pas vraiment.
Ah, tu parles de Prometheus ?
Ouais. Sachant qu'il y a eu un film, il y a un court métrage qui a été fait en bande-annonce par le fils du réalisateur, qui en fait est une conférence TED. Alors les conférences TED, c'est des grands influenceurs de ce monde qui se rencontrent. On paie le ticket juste pour voir des gens, on ne sait pas de quoi ils vont parler, et ils parlent de quelque chose d'inspirant. Et là, l'idée, à ce qui paraît, la bande-annonce, ce court-métrage est absolument extraordinaire. Donc, j'ai hâte de le voir parce que je suis fan des conférences TED qui sont vraiment passionnantes en général. Donc, pour voir justement comment ça a été traité, là aussi, hyper attendu par tout le monde.
On peut parler des trois gros films du printemps-été. Et là, c'est les Avengers, c'est Prometheus et bien sûr The Dark Knight Rises.
Ah oui.
Donc voilà, on peut dire
que... On sait qu'on va avoir un été qui va être cinématographique dans les salles au cinéma. Et on y est au frais et on va en prendre plein la gueule.
Voilà, et puis sachant que tu n'as, dans un autre genre, dans un film d'aventure à effets spéciaux, tu n'étais pas là la semaine dernière, mais je te recommande aussi Marsupilami, qui est aussi une adaptation de BD, mais dans un autre genre.
Deuxième meilleur démarrage pour un film français, hein.
Ah oui, carrément, mais carrément. Ça, c'est pas étonnant. Voilà, donc en tout cas...
Alors que moi, j'ai vu la bestiole en 3D, j'ai...
Eh ben non, ben, y a beaucoup de gens, je discutais justement avec un coloriste que tu connais bien cette semaine, qui me disait « Ah, la bande-annonce me donne pas trop envie parce qu'ils sont allés vraiment trop franco avec les reflets dans les yeux. » Je dis « Ben non, eh ouais, c'est kawaii, mais franchement, ça passe. » Voilà, donc pour revenir voilà, sur ce printemps-été très très gros, eh ben, il va y avoir des morts parce que les films ont intérêt vraiment... à être bien, mais pas juste bien, à être excellent, parce que vu l'attente que ça a suscité, je pense qu'il y a des gens qui vont être il peut y avoir des déceptions. Donc heureusement, c'est pas n'importe qui est aux manettes, hein. Ce sera en full frontal les compétitions entre Ridley Scott, Joss Whedon et Christopher Nolan. Donc bon, ça va, c'est pas n'importe qui est derrière les manettes, et puis on va compter les morts, on va compter les points, et Alain Chabat, et on va voir tout ça. On va essayer de vous chroniquer ça dans les plus brefs délais, voilà.
Vous écoutez le Supplément Week-end, émission numéro 313 sur Radio FMR 89.1 MHz. Si je vous dis Lust for Life, vous voyez immédiatement Iggy Pop dans la tête, mais si je vous dis c'est repris par Tom Jones and the Pretenders.
Just a modern guy. Of course, I've had it in the ear before. Lustful life, lustful life,
lust for life. Lust for life. I got a lust for life. Lust for life. Oh, lust for life. Lust for life. Lust for life. Lust for life. Just a modern guy. Of course I've had it in the year before.
Lust for life.
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 Lust for life. Oh, lust for life. Lust for life.
Lust for life. Tom Jones and the Pretenders. Télévision. Bah oui, obligé.
C'est quoi, c'est les Monty Python ça?
Eh bah oui.
Bah oui.
Ah mais tu en parles aussi?
Mais non, mais ah c'était non. Parce qu'on oui, a parlé d'accord. du flic glacial et tout d'accord, ça d'accord, et d'accord. J'ai pas pensé à le passer et tout. Et là 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 oh. J'aime bien le générateur d'ailleurs de... Peut-on faire concurrence au Monty Python? Le générateur de nom de groupe à la Monty Python dans le flux glacial, il est très très drôle. Vas-y du oui, sens.
Ok, bah j'ai un quart d'heure alors.
Ah oui.
Au niveau des séries, bon, j'ai quand même cherché parce que c'est bien que tu m'as appelé, puis j'ai encore eu le temps de regarder. Donc il y aura un seul truc de Monty Python. C'est con parce que bon bah la super série sur l'histoire des Monty Python qu'ils avaient déjà diffusée sur Arte était rediffusée la semaine dernière.
Ah c'est bête.
Alors
sachant qu'ils disent qu'en fait la version qu'a diffusée Arte c'était une version courte et une version longue de 6h20 avec les sketchs in extenso et tout ça.
Ouais. Alors mais ça sera dans la partie film. Tout d'abord de l'inédit, bah ouais il y en a cette semaine au niveau des séries. Alors ça c'est une série qui a déjà été diffusée sur TPS Star et donc il fallait être un petit peu branché quoi, on va dire.
Oui,
et
payer. Surtout que TPS Star
et payer pour voir
payer
cette série.
Perdre tes profits.
C'est la nouvelle série de Sean Ryan. Sean Ryan c'est le mec qui nous avait fait The Shield avant. Donc on attendait quand même
très bon.
Ouais, quelle était sa nouvelle production. Et bien
c'est toujours du polar.
Bah oui, Chicago Code en fait. Eh bien, ça raconte l'histoire de, on va dire le renouvellement de la police à Chicago, hein, c'est-à-dire des nouvelles méthodes et tout, avec un traitement, on va dire très sérieux, très réaliste, hein, de la part de Sean Ryan, interprété par Jennifer Beals qui joue le rôle de la patronne de la police, Jason Clarke qu'on avait déjà vu dans d'autres séries. Et tout ça, donc, ça commence à être diffusé sur 13e rue lundi à partir de 20h45. On a, et puis on est en plein dedans encore, c'est passé la date officielle du centenaire, mais enfin bon, de quelques jours, donc on peut encore le faire, du Titanic à fond les manettes. Avec alors demain soir c'est la gueulante de Céline Dion, mais je crois que c'est sur France 2 me semble-t-il. Ouais, c'est sur France 2 en full frontal avec Transformers 2.
Ils auraient été plus vicieux et le passer le soir du premier tour.
Par contre, on peut quand même voir ce que donne le traitement anglais de la chose, surtout quand c'est mis en mini-série par Julian Fellowes, le mec qui nous avait fait Downton Abbey juste avant. Donc, vous voyez un petit peu le style. C'est une mini-série donc qui dure 3h20, je crois, ou 3h30 au total, en deux épisodes, en deux téléfilms, avec dans les rôles principaux. Ça, c'est assez étonnant quand même. On voit que c'est la coproduction anglaise et américaine. Linus Roach, qui est l'assistant du district attorney dans les dernières saisons de New York Police Judiciaire. Si vous suivez un petit peu, il y a également Géraldine Somerville. Enfin, un casting d'enfer comme d'habitude. Des super costumes, reconstitution comme seuls les Anglais savent le faire. Bref, c'est à partir de ce soir. Hein, c'est ce soir donc sur TMC. Titanic, la mini-série à partir de 20h45. Arte, après nous avoir fait pas mal de découvrir du polar nordique, on va dire, en série, eh bien va carrément nous chercher une nouvelle série aux antipodes en Australie. Et à partir de jeudi prochain, ça s'appelle East West 101 sur Arte. C'est une mini-série, on va dire, 6 épisodes par saison. Et ça raconte le quotidien d'un flic qui est un Irakien émigré et qui donc doit faire avec dans une société australienne, on va dire, qui est quand même un petit peu gangrénée par le racisme. Et c'est
très fortement, très très fortement.
C'est peu de choses de le dire.
À côté, imaginez que TF1 et M6 c'est encore plus d'audience que chez nous et qu'ils font des reportages sur donc ces Asiatiques qui favorisent le vol dans leur quartier et tout, etc. Non, ça y va sec. Ça y va vraiment sec.
Ok, donc alors ça c'est jeudi prochain sur Arte. Ça s'appelle East West 101. Et comme on me reproche certainement de pas assez vous annoncer les productions franco-françaises, quelques petits téléfilms ou des séries. Une nouvelle série sur TF1 lundi prochain à 20h50. Vive la colo! Avec Titoff, avec Virginie Hoc, Charlotte de Turckheim, Jean-Louis Foulquier, Julien Boisselier. 2 épisodes sont diffusés donc à partir de lundi sur TF1 20h50. Vive la colo. Et également France 2 qui vous propose mercredi prochain la Smala s'en mêle à 20h50 avec Michel Bernier, Thomas Doucet, Julie Debona. Bref,
j'ai oublié un
bonne qualité.
J'ai un jingle
française.
J'ai un jingle pour ça.
Ah bon, bah toi.
Vas-y, continue dessus. Il y a que du sport qui peut la comprendre celle-là.
Alors des films à présent avec ce soir. Alors c'est un petit peu tout et n'importe quoi, mais bon, ça va le faire quand même. Ce soir sur RTL9, c'est pas vraiment un western, mais bon, ça se passe quand même pendant la guerre de sécession. À 20h40, Les Proies de Don Siegel en 71, voilà quoi. Avec Clint Eastwood, Geraldine Page, Joan Harris, Elisabeth Hartman sur 6 filles ce soir. C'est marrant parce que 6 filles, ils nous habituent souvent à des soirées complètement bousesques avec des navets improbables.
Super Ligator versus Dragon Ninja.
Et par contre, à ce soir, il y a 2 bons films l'un après l'autre. Tu vois, d'abord, il y a La Machine à explorer le temps de Simon Wells avec Guy Pearce dans le rôle de l'ingénieur. Il y a Mark Addy, Samantha Mumbai. À noter que Simon Wells, le réalisateur, l'arrière-petit-fils de H.G. Wells, hein, le mec.
Ouais, j'espère qu'ils ne se sont pas arrêtés à ça et que le mec est bon.
Non, mais le film est pas mal.
C'était la grosse polémique à l'époque où les studios avaient annoncé à tort et à travers qu'ils avaient pris le gars parce que c'était un gars talentueux et que personne n'était dupe. On savait tous que c'était parce que c'était le descendant de H.G. Wells. Et d'ailleurs, Simon Wells n'était pas non plus le premier venu quand même parce qu'il avait réalisé Prince d'Égypte. C'était un réalisateur d'animation avant. Yes.
Ah oui, d'accord, oui. Ok, ah oui.
Alors après ce film, donc c'est ce soir à 20h45, à 22h20, Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón.
Ah oui.
Clive Owen,
Julianne Moore,
Charlie Hunnam, Michael Caine, bref, pas mal. Ou alors, si vous aimez bien les navets, un navet qui passe assez souvent, Alien Agent de Jesse V. Johnson avec Mark Dacascos, Billy Zane et Amelia Cook.
Ouais, mais il y a l'Olympico ce soir en finale de la Coupe de la Ligue.
Et ouais,
c'est ça.
Et par contre, soirée Jacques Tourneur sur TCM, je vous en ai parlé la semaine prochaine. Hein. C'est tout le mois d'avril, il vous passe l'intégrale de tous les Jacques Tourneur. Et alors ce soir, il y en a 2 qui sont excellents. Tout d'abord, un film qui s'appelle La Flèche et le Flambeau et qui n'est pas un western comme son titre pourrait le laisser paraître, mais qui est une aventure médiévale. Ouais, les Italiens qui sont envahis par le duc de Hesse. Allez, salauds, eh bien, ils vont se venger, ils vont se révolter avec Brut Lancaster, Franck Rémy et Virginie Maillot, un film de 1950 de Jacques Tourneur, suivi de La Griffe du Passé, un film noir qui fait partie des meilleurs films noirs des années 40 avec Robert Mitchum, Jane Greer, Kirk Douglas et Rhonda Fleming. Demain sur France 3 à 20h35, Inspecteur Lewis, encore un inédit, Vénus porteuse de mort. Et je dois avouer que je continue à trouver ça vraiment bien. Hein. Franchement, Inspecteur Lewis et tout, nettement plus dynamique. Hein, l'histoire du duo entre les deux par rapport à, par exemple, Barnaby, où c'est un petit
peu. Ouais, mais Barnaby, c'est la fin du week-end, t'as le temps de déjeuner dessus tranquillement.
Non, mais Lewis, moi, je sais pas quoi, j'ai un petit faible et tout, puis c'est à Oxford en plus, donc ça
ouais,
fait bien.
C'est très, très belle ville.
Demain également sur Arte. Alors là, c'est le grand classique à 20h40, à Fureur de Vivre, Rebel With a Cause de Nicolas Ray avec James Dean, Salminio, Natalie Wood, Dennis Hopper et James Bacchus. que des morts.
La route tue.
Ou alors,
c'est bien, ça me fait rire, toujours, c'est bien. Hein.
Toujours dans le registre Ciné Club, à fond les manettes à 20h40 demain soir sur Ciné Plus Club. Deep End, le film de Jerzy Skolimowski dont je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça, avec Jane Asher et Diana Dors, entre autres. Sur FX, la suite après Billy the Kid contre Dracula, c'est bien entendu. Jesse James contre Frankenstein, le
ne rigole
film
pas.
De William Bodine.
Ne rigole pas, le community manager et responsable de la programmation de CineFX nous écoute.
Narda Onyx sur Action. Alors là, ça va te rigoler, plaire. Alors là, ça va te plaire sur Action. Dragon Squad de Daniel Lee avec Sammo Hung, Michael Biehn et Maggie Q.
Je pense qu'on va tabasser avant de poser des questions.
Lundi, Canal Plus vous propose un téléfilm qui a quand même obtenu le prix du public, le prix spécial du jury au dernier festival de Luchon. Hein, là, en février, là, il n'y a pas si longtemps, il y a deux mois. C'est le film d'Antoine Decaune, Yann Pia, chronique d'un assassinat, qui est diffusé
sur le juge
lundi.
Yann Pia
non, Yann Pia.
Ah oh, merde.
Yann Pia.
Oui, mais
la nana d'extrême droite.
Oh, pardon.
Voilà.
Ah, oui, oui.
Ok.
Exact. Excuse-moi.
Donc, c'est lundi sur Canal Plus, 20h55. Sinon, sur Arte, à 22h20, Lady Vengeance de Park Chan-wook, comme ça, ouais, comme ça. Allez, tiens, je te file.
Allez.
Vas-y. Ding. Et sur Sci-Fi, Jabberwocky à 20h45, mais pas le Monty Python.
Oh.
Jabberwocky, la légende du dragon de Stephen Monroe, c'est du Canadien avec Tamoa Pinkett, pardon, qui est un certainement, à mon avis, un Thaïlando-Canadien. Parce qu'on le voit dans pas mal de films comme ça, quoi, des mêmes genres de production, où c'est toujours lui le super-héros. C'est moi qui gagne à la fin. Il y a également Michael Worth, donc, dans cette version de Jabberwocky, la légende du dragon, sur Sci-Fi demain soir, lundi soir à 20h45. Ou sinon, sur FX, on a également lundi à 21h, Immortel, le film d'Enki Bilal. Ou alors.
Non, il est sympa.
Alors moi, je vois des qualités dans ce film que pour Linda Hardy qui a les seins à l'air tout le film, c'est tout.
Bon, alors dans ce cas-là, tu reviendras sur la Lady Vengeance. Hein,
Mais pas Charlotte.
Ah, j'ai aussi assassiné Lady Vengeance, j'avais trouvé naze.
Ouais, par rapport au manga.
Alors, lundi sur Orange Ciné Géant, il y a également La Première Folie des Monty Python à 20h40, le film de Ian McNaughton en 71.
On apprend dans Le Flic Glacial quel est le nom du film au départ et ils l'ont pas gardé, c'est à chier.
Ils n'ont rien à voir. Mardi sur 13ème rue, spécial Delon avec à 20h45 Flic Story, donc de Léon Trintignant, Salvatori, et à 22h40 Mort d'un pourri, réalisé l'année suivante avec
Delon,
René,
c'est ça alors qu'il est hospitalisé,
Stéphane Audran et Klaus Kinski, mais il va beaucoup mieux, je te rassure. Le premier de Jacques Doret, le deuxième de Georges Lautner. Sur TCM, Un faux mouvement, c'est le premier film de Karl Franklin en 92 qui avait obtenu un prix spécial du jury au festival de Cognac avec Cindy Williams, Bill Paxton, Billy Bob Thornton, Michael Beach. Sur Orange Ciné Géant, mardi, Le tombeau hindou de Fritz Lang en 1958 avec Debra Paget, Walter Reyer, ouais, excellent quoi. C'est la suite d'ailleurs, je crois, du Tigre du Bengale. Ou alors c'est le contraire. Non, oui, c'est l'un des deux vont ensemble.
Je te souhaite dire.
Ok, mercredi sur RTL 9 à 20h40, Torquay, la route sans flamme, ouais, avec Martin Anderson, ouais, Ice Cube.
C'était la phase alors, Fast and Furious, mais avec des motos.
Voilà, avec des motos, ouais. Et Monet Mazur. Sinon,
au secours.
Sur Sci-Fi, mercredi, il y a quand même The Thing de Carpenter à 20h45, ou alors sur Ciné Plus Premier, District 9 de Neil Blomkamp.
Oh bah ouais, bah,
ou alors
très, 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 très bon.
Ou alors
bon.
Sur Ciné Plus Club à la même heure, THX 1138 de George Lucas.
Eh ben,
bravo.
Franchement quoi,
de l'hyper méga frontal.
À part Torquay qui est une faute de goût parfaite, mais je l'assume entièrement. Tout le reste, c'est pas mal hein, pour un mercredi généralement qui est bouffé.
Ah ouais, le mercredi, franchement, d'habitude.
Ouais. Jeudi, sur Canal Plus Family, Vic le Viking de Michael Herbig, un film allemand d'après les histoires du Vic le Viking. Alors bon, ceux qui ont des gamins comprendront, hein, c'est quand même assez vieux comme histoire. Et là, c'est l'adaptation cinématographique. Et c'est vraiment bien foutu, c'est pas mal, c'est sympa, on passe un bon moment et tout. Quelques vannes un petit peu grasses, mais qui sont propres à l'humour allemand, on va dire. Mais à part ça, c'est tout à fait regardable en famille. Ce qui est moins regardable en famille et qui est en full frontal par rapport à Vic les Vikings sur Canal Plus Family, c'est le film de Canal Plus décalé, c'est Kick-Ass Alors là, c'est plus pareil.
Oui.
Du tout. Non. Ou alors, si vous préférez un bon vieux Peter Jackson de derrière les fagots sur RTL 9, Fantôme contre Fantôme.
Oh, très bien.
Très
ou
fun,
alors,
très fun, mais malheureusement
la bouse du jeudi de Sifi à 20h45. Kamel Spiders, c'est le dernier Jim Wynorski. Il est inédit.
Kamel, c'est le chameau.
Des chameaux araignées. Voilà, ça tout compris. Avec James Marsden.
Parce
Brian
que moi,
Dennis.
J'ai compris. Spiders. Oui, mais qui fonçait, tu vois. Donc,
Alors, Brian Krause, Chris Thomas Wes. Donc, quand même, un bon casting, on va dire, pour ce Kamel Spiders. Par contre, on préférera peut-être sur la chaîne Action, jeudi prochain à 20h40, Tense and Wolf de Robert Monroe avec James Marsden, Brian Dennehy et Dennis Hopper. Avec un casting comme ça, généralement, tu veux faire un truc bien couillu. Vendredi, on termine avec Canal+, qui vous propose à 20h45. True Grit, le film des frères Cohen, donc la reprise du film de
tu vas y arriver.
John Ford, $100 pour un shérif, avec Jeff Bridges, Matt Damon, sur RTL 9 vendredi prochain à 22h25, révisez vos classiques du cinéma de Wu Chapang, Un seul bras, Les tue à tous de Chang Kai.
Wu Cha Pian.
Pian, ouais, avec Jimmy Wang Yu, bien sûr, hein, normal.
Ouais.
Et sur Sci-Fi, Los Futurs de Michael Solomon avec Sean Bean et Corey Sevier. Corey Sevier, c'est celle qu'on a également à l'affiche du film Alien Sex Girls, rappelle-toi.
Ok.
Bon. D'accord.
Et Sushi ne même pas. Quoi.
Non, elle était dans ses fiches. Non.
Moi, je suis concentré. Hein, je prépare mon émission.
Vendredi prochain.
Tu vas voir, ça va bien se passer. On te la nourrit.
Ça va alors.
Ouais. Merci, enflammé.
Je suis rassasié. Vendredi prochain, donc, pour terminer sur Ciné Plus Star à 22h35, Zardoz de John Boorman. Excellent.
En slip.
En couche culotte.
Ah ouais.
Sur Action, un bon petit western de William Graham, Lord des Pistoleros, avec Margaret Beave, James Coburn et Carol O'Connor, et enfin un grand classique du film d'action sur Orange Cinéchoc vendredi prochain 20h40, Bloodsport. Oh. JCVD pour toujours,
grand écart.
La pensée latérale. Ainsi se termine à 13h30min 51s et 976 millièmes de l'horloge atomique de la radio le supplément week-end. Pardon, Sushi, vas-y.
J'ai le temps de le dire, c'était déjà passé, mais bon, continue.
D'accord, ok, bon.
Ok, allez, bam.
Vous écoutez le supplément week-end sur Radio FMR numéro 313 du samedi 14 avril 2012. Je suis un petit peu claqué et je parie que j'ai loupé quelque chose au passage, de même que ceux qui nous écoutent en FM ou qui nous écoutent en stream en cours de route ou qui ont écouté ce podcast en diagonale. Thomas, peux-tu leur en faire un résumé ?
Bien sûr, nous avions une bataille de toucher-couler, nous avions une cuisse de poulet, un hommage au Bright Side of Life, un auteur de BD avec un fusil, un quiz avec des gugus à super pouvoir, un jeune con et un vieux réac, le retour de la brute, des morts sur la route, un pourri à l'hosto, des chameaux mutants, de la couche culotte et de l'Alien Says Girl quand même.
Il a touché mon porte-avions. Vous avez manqué tout ça, heureusement, grâce à la diffusion différée. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites, laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas, c'est très facile, il suffit d'aller sur le site web de l'émission suppléments-weekend.fr, suppléments-weekend.fr sans accent ni tiré, et bien évidemment nous rejoindre aussi sur Google+, Facebook et Twitter, j'en ai cité 3, j'ai le droit. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Juste une question, comme ça, on a préparé quelque chose pour la semaine prochaine?
Pourquoi il fallait?
Ah, je sens que ça va être un petit peu la bévue, mais non, mais heureusement, on aura préparé quelque chose. Ciao, bye bye, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, amusez-vous bien. De suite, c'est du sport avec Sushinet. Et ensuite, à 14h, donc, la partie musicale de du sport. Et à 15h, il y aura du reggae, si je ne me trompe pas. Non, qu'on me dit.
Il n'y aura pas de reggae.
Voilà, et n'oubliez pas d'aller voter dans 8 jours. Ciao, bye bye.